Un jour, Tolho était assis sous un hêtre dont les racines découvertes embrassaient un rocher suspendu sur le fleuve. Sa tête était penchée et ses yeux fixés sur les eaux. Ses bras étaient éroisés sur sa poitrine. Il était pâle, immobile, et sortait de temps en temps ce repos funeste par des mouvements violents et de peu de durée. Moussa, qui le cherchait, le vit et s'arrêta. Tolo, qui se croyait seul, se leva avec impétuosité et se jetant à genoux. « Grand esprit ! » s'écria-t-il, « je renonce à la vie. Veille sur les jours de mon ami. » Il allait se précipiter dans le fleuve et il se trouva dans les bras de Moussa, qui s'écria « Barbare, mais tu me laisses seul sur la terre ? Quoi, tu ne veux pas que je partage la mort avec toi ?»« Ah, oh, dit Tolo, tu m'attaches à la vie. » Moussa, sans lui rien dire, l'embrassait fortement et l'entraînait vers le fleuve pour se précipiter avec lui. Tolo l'arrêtait en le conjurant de vivre avec Érimée. Moussa l'accablait de reproches les plus tendres. Enfin, entraîné par Tolo, il s'éloigna du fleuve et tous deux vinrent se reposer à l'entrée de leur cabane. Là, il s'entretint avec assez de tranquillité. Dans la scène qui venait de se passer entre eux, ils avaient épuisé leurs forces. Ils n'en avaient plus assez pour se livrer aux sentiments violents. Ils venaient de sentir les horreurs du désespoir. Et leur âme, fatiguée de cet état cruel, cherchait à se faire des illusions et à retrouver l'espérance. « Mon ami, dit Moussa, toi avec qui je veux partager la vie et la mort, écoute une de mes pensées. » Tu sais la chanson qu'Érimée fit pour nous au moment de notre départ. Cette belle fille chantait tes louanges et les miennes. Elle semblait nous regretter tous les deux. Oui, dit Tolo, et j'ai eu de sa pensée, toi aussi. Je me suis dit, mais pourquoi ne pourrais-je partager les plaisirs de l'amour avec l'ami de mon cœur, l'ornement de ma vie? Je souriais à cette pensée. Mais je me présentais, Érimée, entre tes bras, et les vipères de la jalousie me rongeaient le cœur. Je te pardonne, dit Moussa, mais écoute la suite de mes pensées. Je me suis interrogé, je me suis dit, si Tolmo goûtait dans les bras d'Érimée les plaisirs de l'amour, pourquoi mon âme ne serait-elle affligée? Mon âme qui est heureuse des plaisirs de Tolo. C'est parce qu'Érimée serait à Tolo et ne serait pas à moi. Mais si Érimée le veut, ne pouvons-nous pas être heureux l'un et l'autre? Elle serait à nous, et alors? Ah, oh, dit Tolo, j'ai aussi interrogé mon cœur. Écoute, tu te souviens que, dès notre enfance, nous avons évité d'être plus forts, plus puissants, plus adroits l'un que l'autre. Tu n'as pas voulu me surpasser. Et si Érimée t'aimait mieux que moi, dans ses bras même, je sentirais ton avantage, et j'aurais peut-être une fureur qui viendrait funeste à nous trois. Moussa fut longtemps sans répondre. Il dit enfin, « Je viens de m'interroger. » Je t'avoue que la belle Érimée donne son cœur à l'un ou à l'autre. Si elle ne nous laisse ignorer que les deux, elle préfère, je sens que je serai heureux de ton bonheur et du mien. Interroge ton cœur et tu me répondras. » Et Tolio, après avoir rêvé quelque temps, dit à son ami, « Ô moitié de moi-même, je sens que je puis tout partager avec toi. À ces mots, ils s'embrassèrent et formèrent sur le champ le dessein de retourner au village d'Ontario. Ils partirent après un léger repas et à l'entrée de la nuit, il fallait monter des rochers difficiles et traverser de vastes forêts qui leur étaient inconnues. Mais ils observaient les astres. Et de plus, pour ne point s'égarer, ils n'avaient qu'à suivre les bords du grand fleuve. Dans la route, ils chantaient souvent la chanson des rimées. Ils convenaient ensemble de la manière dont ils lui parleraient, de leur passion, et des moyens qu'ils emploieraient pour engager cette belle fille à ne donner à aucun des deux la préférence sur l'autre. Ils marchaient avec joie, plein d'espérance et impatients de revoir Érimée. Ils avaient déjà franchi les rochers et ils avançaient dans la forêt. Ils étaient près de la fin de la journée et déjà le crépuscule commençait à rendre la verdure plus sombre et plus profonde. Ils entendirent un bruit assez près d'eux et distinguèrent quelques voix. Ils avancèrent vers le bruit et bientôt ils virent une petite troupe de 7 ou 8 Outaouais et de 5 captifs Iroquois. Moulin regarda Trollo et lui dit « Je sens mon cœur qui bondit dans mon sein. Il s'élance loin de moi. Il m'apportait en porte vers les ennemis de mes pères. » Toro regardait les Outaouais avec des yeux étincelants de rage. Mon arc, disait-il, se tend dans mes mains. Mes flèches vont partir d'elles-mêmes. On connaîtra les deux amis. À ces mots, ils tirent leurs flèches qui tuent un Outaouais et en blessent deux dont un seul fut hors de combat. Les deux amis jettent leur arc derrière le dos et la massue à la main foncent sur les Outaouais qui viennent à eux au nombre de 4, tandis que 2 autres emmenaient les prisonniers. Tolvo et Monza échappèrent adroitement à ces 4 Outaouais et s'élancèrent comme des traits sur ceux qui conduisaient les captifs. La nuit qui succédait au crépuscule et les rameaux des grands arbres réparaient, pondaient tant d'obscurité qu'on avait peine à distinguer les objets. Les deux sauvages, voyant des ennemis et ne sachant pas leur nombre, songèrent à se sauver, mais après avoir massacré leurs captifs. Mouza, le premier, arrive à leur secours, et les deux bourreaux prirent la fuite. Tolo les poursuivit un moment. 2 captifs, cependant, avaient été assommés, et dans ceux qui restaient, Mouza reconnut Érimée et Chérico. Érimée, Érimée, s'écria-t-il, je mourrai ou je te sauverai la vie. Je te la dois, jeune et beau Mouza, dit Érimée, je te la dois. Au cri de Mouza, à la voix d'Érimée, Tolo revient. Les Outouanais réunis revinrent les attaquer. Érimée et les 2 compagnons, enchaînés encore, s'éloignaient du combat avec peine et entraînant avec leurs chaînes les cadavres des 2 Iroquois massacrés. Les 2 amis tuèrent d'abord 2 Outouais, Tolo en fit un qui retournait sur le captif, et il courut à lui et le tua. Érimée, tremblante, et lui tendant la main, le pria de rompre leurs liens. Tolo, ivre d'amour et de joie, lui rendit ce service. Mais il fallut un peu de temps. Dès qu'Érimée fut libre, elle se précipita aux genoux de son libérateur, qui s'en débarrassa pour aller rejoindre son ami. Quelle fut la crainte et les douleurs de Tolo quand il ne trouva plus ni Mouza, ni les Outouais. Il répéta plusieurs fois de toutes ses forces le nom de Mouza. On ne lui répondit point. Il prêta l'oreille et il entendit que le bruit terrible du Niagara. Il revint vers Érimée, qui, dégagé de ses liens, achevait de briser ceux de ses compagnons. Tolo les arma de l'arc et des flèches des Outaouais tués dans le combat. Ils erraient tous au hasard dans cette obscurité vaste et profonde, au bruit des flots qui se précipitaient dans les montagnes. Ils jetaient de temps en temps des cris de douleur, et quoique assurés de n'être point entendus, ils répétaient de moment en moment le nom de Moussa. Et après avoir fait dans la forêt plusieurs tours et détours, ils se retrouvèrent au lever du soleil sur le lieu du combat. Ils virent les corps de quatre Outaouais et cherchèrent en vain celui de Moussa. Tolo, accablé de lassitude et de désespoir, affaibli par le sang que de légères blessures lui avaient fait reprendre, tomba sans sentiment au pied d'un vieux chêne. Érimée et les deux Iroquois firent leurs efforts pour le rappeler à la vie. Il reprit peu à peu du mouvement. On vit les larmes couler le long de ses joues, et ses yeux s'ouvrirent. Il regarda autour de lui et prononça le nom de Moussa. Érimée était à ses côtés et cherchait à le consoler par les caresses les plus tendres. Elle lui jurait, au nom du grand esprit, un attachement éternel. Tolo la regarda et lui dit « Moussa était ton amant. C'est lui qui le premier t'a sauvé la vie. Outaouais vont dévorer l'ami de Tolo, le cœur qui t'ignore. » Érimée se tut et fondit en larmes. Ils se livraient ensemble à leur douleur. Chérico se leva. C'était un homme de 50 ans, distingué par plusieurs actions de courage. Il avait même été plus d'une fois chef de guerre et toujours victorieux. On estimait dans Rothario son grand sens et sa justice. « Jeune homme, dit-il à Tolo, je suis touché de ta douleur. Mais la douleur ne doit point abattre l'homme. Les perfides Outaouais ont enlevé ton ami. Ils l'ont peut-être laissé vivre encore. Allons lui rendre la liberté. Et s'il n'est plus, allons le venger. Éteindre les eaux du grand fleuve du sang des Outaouais. Les perfides sont venus comme des brigands nous enlever une femme et quatre guerriers. Nous ne sommes que à 2 journées d'Ontario. Allons-y réveiller la guerre. En arrivant, je vais donner le festin des combats. Je rappellerai à nos guerriers les victoires qui les ont remportées avec moi. Ils me nommeront leur chef. Et je lui ferai venger. » Tolo, ranimé par l'espérance de sauver son ami ou de le venger, rendit grâce à Chérico et ils se mirent en chemin. Érimée ne quittait point les pas de son libérateur. Vers les 2/3 du jour, ils s'arrêtèrent auprès d'un ruisseau bordé de fraises, de framboises et d'autres fruits. Érimée en cueillait qu'elle présentait à Tolo. Elle lui parlait, elle le consolait, sans cesse. Celui-ci, touché, attendri, hors de lui-même, lui dit combien elle lui était chère. Érimée baissa les yeux et rougit. « Garde-toi, lui dit Tolo, de me répondre. Ne jette point sur moi les yeux du mépris, ne me regarde point des yeux de l'amour. Garde-toi d'expliquer ton cœur. C'est la récompense que je demande pour t'avoir sauvé la vie. Je sauverai mon ami, ou je livrerai mes seins aux clofèches de Outaouais. Si nous vivons, si Molaï Mozo se retrouvent encore sur le même natte, ils viendront à toi. Ils te parleront. Et tu répondras alors. Jusque-là, gardons-nous d'expliquer nos cœurs. » Il prononça ces mots d'un air touché et en même temps terrible. Érimée fut ému de ce discours et ne comprit pas. Ils allaient quitter le ruisseau et se mettre en chemin lorsqu'ils virent sortir du bois plusieurs hommes armés. Érimée fit un cri d'effroi, mais elle fut bientôt rassurée. Elle et ses compagnons reconnurent les Iroquois d'Ontario et ceux de plusieurs villages qui s'étaient réunis contre les Outaouais. Les Iroquois furent charmés de retrouver Chérico, Érimée et Tolo. Ils pleurèrent les deux guerriers qu'on avait perdus, et ils espérèrent que Bouza vivrait encore, et ils se dirent qu'il ne fallait pas perdre le moment pour les délivrer. Lorsque les peuples de ces contrées ont fait des prisonniers, ils les destinent quelquefois à remplacer auprès des veuves les époux qu'elles ont perdus. Mais le plus souvent, ces malheureux sont destinés à souffrir les supplices les plus recherchés et les plus cruels. Je ne veux point en faire la description, le tableau ferait horreur. Je me contenterai de dire que ces barbares ont perfectionné l'art de faire souffrir leurs victimes sans les faire mourir promptement. Les premiers jours, on les accable d'outrages et de blessures douloureuses qui n'attaquent point les principes de la vie. Et les jours suivants, les blessures sont plus grandes. Et enfin, ces misérables expirent le cinquième ou le sixième jour, dans les tourments les plus affreux. Il est d'usage de ne mettre les prisonniers à la torture qu'après leur avoir donné de grands festins. Les Iroquois se flattaient d'arriver chez leurs ennemis avant que les supplices de l'infortuné Mouza fussent commencés. Ils marchèrent toute la nuit et le jour suivant. Érimée, qui ne pouvait les suivre, retourna au village d'Ontario. Elle se sépara de Tolo et de Chérico en fondant en larmes et en leur disant « Allez délivrer Mouza !» Le soir du second jour, les Iroquois aperçurent les fumées d'Ottawa, le principal village des Outaouais. Le chef plaça Chérico et quelques jeunes gens dans un bouquet de bois peu distant du village. Il cacha le gros de la troupe dans de grands arbres à fruits et dans des champs de maïs. Là, ils attendirent la nuit et l'ordre fut donné d'attaquer à Outan une heure avant le jour. Il y a dans les villages de ces peuples une place destinée au supplice des prisonniers, et auprès de cette place, on a construit une loge dans laquelle on garde les malheureux. Chérico et quelques sauvages, du nombre desquels étaient en l'eau, furent chargés de se rendre directement à cette loge avant que l'on eût commencé l'attaque et d'y délivrer Mouza, s'il vivait encore. Au moment prescrit, les Iroquois se mirent en mouvement. Chérico et Tolo furent reconnus à l'entrée du village, qui ne s'attendaient point à être attaqués si promptement. L'alarme fut donnée, mais Chérico et Tolo marchèrent sans s'arrêter à la loge des prisonniers. Ils cassèrent la tête aux deux Outaouais qui gardaient cette loge, dans laquelle ils trouvèrent Mouza étendu sur une natte, pâle et couvert de plaies et de sang. Tolo jeta un cri et se précipita sur la natte à côté de son ami, sans qu'il lui fût possible d'articuler un mot. Mouza se releva, et ranimé par la présence de Tolo et par le bruit de combat qui commençait à se faire entendre, « Oh, mon ami, donne-moi des armes, dit-il, ma blessure sort cruelle, mais elles n'ont point épuisé ma force. » La douleur pourrait-elle empêcher ton ami de combattre avec toi ? On lui donna un arc et des flèches. Ils sortirent de la loge. Mouzard marchait avec peine et combattait avec rage. Les Outaouais, surpris, furent d'abord vaincus. La plupart prirent la fuite et se dispersèrent dans les forêts. Ce qui ne fut pu fuir fut massacré sans pitié. Quelques-uns vendirent chèrement leur vie. Chérico reçut une flèche dans la poitrine. Ce malheur empoisonna le plaisir des vainqueurs et fut surtout sensible à Tolo et à Mouza. Les Iroquois, après avoir mis tout à feu et à sang, se rassemblèrent sur la place et se disposèrent à partir. Ils enchaînèrent quelques jeunes hommes qui destinèrent à remplacer les guerriers qu'ils avaient perdus et ils se mirent en marche. Les prisonniers transportaient sur des brancards Chérico, qui était blessé dangereusement, et Mouza, que ses plaies empêchaient de suivre la route. Tolo ne quittait point le brancard de son ami. Bientôt, ils se contèrent ce qui était arrivé à chacun d'eux depuis qu'ils ne s'étaient vus. Mouza fut transporté de joie d'apprendre qu'Herbé était sauvé. Il fut aussi de la manière dont Tolo avait parlé à cette fille. Après avoir exprimé à son ami tous ses sentiments qui remplissaient son cœur, « J'ai été digne de toi, dit-il. Tu me vis combattre. Tu sais que les Outaouais ne me résistaient pas. Ils ne me résistaient pas. Les perfides Outaouais. Mais deux d'entre eux me surprirent, me saisirent par derrière, me lièrent les mains et me forcèrent à les suivre. Je t'appelai à mon secours. Tu ne me répondis pas. Je craignais que de la flèche des Outaouais tu fais couler ton sang. Je cherchais et je marchais accompagné de ma douleur. Et j'arrivais le lendemain dans l'enceinte d'Aotan. Les femmes et les enfants m'accablèrent d'injures et me lancèrent des pierres. Je ne fus ébranlé ni par les coups ni par les outrages. Je traversais le village à pas lents, le front calme et la tête élevée, et mes regards exprimaient le mépris. Cependant, le désespoir était dans mon cœur. Je craignis que les Outaouais me vissent ma tristesse. S'ils l'avaient vu, ils auraient dit que ton ami craignait les supplices de la mort. Alors je fus entouré des veuves des Outaouais. L'une d'elles dit ces paroles, « Que le jeune Iroquois soit le maître de ma cabane et que sa chasse nourrisse mes enfants. » Femme, lui répondis-je, les Outaouais ne me compteront point au nombre de leurs chasseurs. Je ne serai point le maître de ta cabane. Je demande la mort. Les veuves et les jeunes gens jetèrent des cris d'indignation et je fus condamné au supplice. Le lendemain, je souffris pendant 2 heures la cruauté de nos ennemis. Tu vois qu'ils ont placé des fers brûlants sur plusieurs endroits de mon corps. Ils ont arraché plusieurs de mes ongles. Mon cher Tolo, je me suis montré homme. Et voici ce que je leur ai chanté. J'ai vu vos prisonniers chercher d'un œil inquiet la veuve qui viendrait les sauver. Mais les veuves des Iroquois ne veulent point de vos guerriers pour époux. J'ai vu vos prisonniers, je les ai vus rire dans la douleur. Mais ils ne sont pas au-devant de la douleur comme de jeunes Iroquois. Femmes, enfants, guerriers d'Aotan, vous prolongez mes supplices et je chanterai ma douleur. Redoublez mes supplices et je cesserai de vivre parmi vous. Ô vaillants Iroquois, mes frères, ô Tolo, l'ami de mon cœur, ô belle Érimée, la plus chère des filles, je ne vivrai point parmi vos ennemis, je me complais dans ma mort, adieu. » Et pendant ce récit, Tolo versait des larmes d'attendrissement et d'admiration. Il jouissait des vertus de son ami et du plaisir de l'avoir délivré. Cependant, les blessures de Moussa se guérissaient malgré les fatigues de la route. Chez les peuples dont le sang n'est pas corrompu par les vins, les mets et la débauche de nos climats, les plus grandes blessures sont guéries en peu de jours, surtout dans la jeunesse. Chérico, plus âgé que Moussa et blessé plus dangereusement, semblait s'affaiblir et s'éteindre. Il conservait à peine un reste de vie lorsque la petite armée des Iroquois arriva dans l'Ontario. Mansa et Tolo lui avaient prodigué leurs soins et étaient remplis de vénération et de tendresse pour ces deux jeunes gens. Ils les avaient entendus souvent pendant la route prononcer le nom d'Érimé en se parlant avec beaucoup d'émotion. Il avait deviné qu'ils étaient amoureux de sa nièce et leur avait fait à ce sujet quelques plaisanteries qui les affligèrent. Et le matin du jour qu'on arrivait dans l'Ontario, Tolo et Moussa révélèrent leur passion et leur dessein à Chérico. Ils osèrent le conjurer de leur être favorable. Le vieillard fut d'abord opposé à une sorte d'union qui, sans être contraire au caractère et aux mœurs des Iroquois, n'était pas dans leurs usages. Il sentit que cette union avait des dangers. Il les fit voir aux deux amis. Il les exhortait à combattre leur passion. Mais pour réponse à cette exhortation, ils lui contèrent tout ce qu'ils avaient fait. Alors le vieillard, touché de l'état cruel de ces deux jeunes héros, attendri par leurs larmes, plein de respect pour leur amitié généreuse, assuré que sa nièce, qui elle allait le perdre, vivrait dans l'opulence et respectée de son village pour avoir fait la conquête des deux plus braves guerriers de la nation, persuadé que la délicatesse et la force de leur amitié les rendraient ingénieux à prévenir la jalousie, convaincu même que la conduite que les deux amis se proposaient de tenir à cet Érimé Kérimé pouvait leur faire éviter non toutes les peines, mais toutes les dissensions, entraînés aussi par le sentiment des services qu'ils avaient rendus à sa nièce et à lui, et que Tolo et Moussa lui rappelèrent, il leur promit de les servir avec chaleur auprès d'Érimé. Cependant, les filles, les enfants, les vieillards d'Ontario vinrent au-devant des vainqueurs, chantant leurs louanges. Tolo et Moussa marchaient à la tête de la troupe, comme ceux de guerriers qui étaient les plus distingués. Érimé fut ravi de revoir les deux jeunes amis. Tolo lui conta tout ce que Moussa venait de sourire chez les Outouanais. Et Moussa lui confia les exploits de son ami qu'il avait délivré. Mais bientôt, elle ne parut plus occupée que de la blessure de Chérico. Il crut sentir que sa fin approchait. Il fit sortir de sa cabane tous les Iroquois, et quand il fut seul avec sa nièce, « Érimé, dit-il, je vais passer dans la terre étrangère. C'est à toi, fille de ma sœur, à donner à mes amis un festin sur ma tombe. Que le poteau que tu élèveras auprès de ma tombe dise à mes amis quel homme fut Chérico, les cheveux de 23 de bons ennemis tapissent ma cabane. J'ai 5 fois été chef de guerre. Je n'ai perdu que 6 hommes et j'ai pris ou tué 100 hommes à l'ennemi. La flèche de l'Outaouais m'a frappé lorsque je délivrais un Iroquois. Les tigres et les ours craignent la massue de Chéricot. Le rial et le chevreuil ont rempli mes chaudières. Ma chasse a nourri souvent les enfants de la veuve et le vieillard. N'ai jamais été coupable du grand crime. C'est le nom que les Iroquois donnent à l'ingratitude. Mon esprit n'a jamais perdu la mémoire du bienfait. Voilà ce que doit dire le poteau que tu élèveras sur ma tombe. Et je te laisse d'autres devoirs. Ô toi qui me dois la gloire et les beaux jours de ta jeunesse, n'oublie jamais ce que nous devons à Tolklo et à Moussa. Ils t'aiment plus que la lumière. Ils ne peuvent en jouir sans toi. Tu sais comme ils sont unis. La vie de l'un et la vie de l'autre. Et cependant, Moussa peut le céder à Toro. Et celui-ci ne peut pas te céder à Moussa. Ils ont brisé tes liens. Et ils vont perdre la vie consumée par l'amour. Ne me laisse point partir pour la terre étrangère sans m'assurer que les deux plus braves de tes guerriers, les meilleurs d'entre nos jeunes gens, ne seront point malheureux. Qu'ils habitent avec toi la cabane que je te laisse, il n'est qu'un danger à craindre pour toi. Tu mettras ta colère dans leur cœur si tu laisses voir qu'il en est un que tu préfères à l'autre. Tu romprais leur amitié, qui sera leur gloire et la tienne. Tous deux méritent ton cœur. Ils le possèdent également. Ne souris point à l'un sans sourire à l'autre. Réponds à leur amour et ne les préviens jamais. Vis heureuse, ma chère Érimée, tu le peux. Souviens-toi de Chéricot, qui va bientôt dans la terre que le grand esprit convie en ce temps de fruits et de fleurs. Chéricot cessa de parler, et sa nièce versa quelques larmes. Après un moment de silence, elle dit qu'elle devait tout aux deux jeunes amis, et à lui, et qu'elle ne se sentait point coupable du grand crime. Chéricot appela Tolo et Moussa, qui étaient dans la chambre voisine, et séparés de celle du vieillard par une cloison de marbre, de natte. Ils auraient entendu le discours du vieillard si sa voix avait été moins faible, mais ils entendirent du moins la réponse d'Érimée. Ils entrèrent en précipitant aux pieds de cette belle fille, chacun d'eux prit d'une de ses mains, qu'il couvrit de ses baisers. « Nous serons tous heureux, » dit Moussa. « Nous vivrons pour Érimée, » dit Tolo. Ils se jetèrent aux pieds de Chéricot et lui rendirent grâce. Le vieillard parut un moment ranimé par la joie de ses amis. Il leur dit qu'il le trouvait mieux. Oui, qu'il se trouvait mieux. Le lendemain, il parut avoir plus de force. Il donna beaucoup d'espérance qu'il pouvait guérir. Moussa et Tolo se dirent qu'il était temps d'achever leur mariage et que le vieillard se portait assez bien pour qu'on en pût parler à sa nièce. Dans les différentes conversations qu'ils avaient eues ensemble le jour précédent, ils avaient décidé qu'ils ne verraient leur épouse en particulier, que la nuit. Mais ils n'avaient point décidé auquel des deux serait accédé la première nuit. Ils prenaient l'un et l'autre des détours pour se parler de cet article délicat. Tous deux étaient dévorés d'impatience. Ils craignaient également de paraître demander une préférence et d'exciter entre eux de la jalousie. Enfin, Moussa céda le premier à la générosité de son cœur. « Tolo, dit-il, je serais malheureux si la belle Érimée te nommait ce soir en époux. Mais c'est Moussa qui cède les plaisirs de cette nuit. Sois heureux. » Et après ce peu de mots, il s'éloignait en soupirant. « Arrête !» s'écria Tolio. « Arrête ! J'atteste le grand esprit que Tolo est aussi capable que moi de dompter son cœur. »« Je le crois, » dit Moussa, « mais sois le plus heureux cette nuit. Je n'en serai point tourmenté. »« Je le serai, » dit Tolo. « J'aurai la honte d'être moins généreux. » Et Moussa l'interrompit en disant, « Mais je suis le premier à qui Érima a dit ses paroles d'amour. C'est moi qui le premier ai sauvé les jours d'Érimée dans la forêt. Quelle torture n'ai-je pas soufferte pour aller chez les Oudouatouarais ? Mais qu'importe, sois heureux, je ne serai point jaloux. » « Ah, dit Tolo, que n'ai-je pas souffert le jour où vous me précipitez dans ce grand fleuve? Que n'ai-je pas fait pour Érimée et pour toi? Ne me devez-vous pas tous les deux la vie et la liberté? Mais qu'importe, que Moussa soit heureux cette nuit, je ne serai point jaloux. » « Mais, dit Moussa, si Chérico nommait celui d'entre nous, « Oh, j'y consens, » dit Tolo. Ils rentrèrent dans la cabane. Ils racontèrent ce qui venait de se passer entre eux. Moussa, qui avait fait le premier sacrifice de soi-même, fut nommé par Jéricho. Il fit signe à sa nièce de passer dans la chambre voisine, où Moussa la suivit. Tolo rougit, pâlit, garda quelque temps le silence, et après un moment de réflexion, s'occupa vivement de Chérico. Il lui rendait des soins, même inutiles, avec un zèle et une activité extrême. Il montrait sur la santé du vieillard une inquiétude dont cette santé n'était pas l'objet. Il ne pouvait rester un moment tranquille sur sa natte. Il entendit quelques bruits dans la chambre voisine. Il se leva et sortit de la cabane avec précipitation. Cependant, Moussa se trouvait au comble de ses voeux. Érimée, jeune, belle, vive, recevait avec transport les caresses de son époux. Après être abandonnés l'un et l'autre à l'ivresse des sens, ils devinrent tendres. « Oh !» disait Moussa, « tu es l'âme de nos âmes. Tu es la seule femme qui soit belle pour nous, pour mon ami et pour moi. C'est pour moi que tu es belle aujourd'hui, et tu le seras demain pour mon ami. Dis-moi que tu aimes Tolo, et demain garde-toi d'oublier Moussa. » Érimée lui dit que Tolo lui était cher, et il lui prodigua encore les caresses les plus tendres. Mais à peine cet ami généreux aperçut la première heure du crépuscule, « Oh, je souffre, dit-il, à Érimée, des peines de mon ami. Allons lui dire combien il est aimé. » Cependant, lorsque Tolo était sorti de la cabane, il s'était arrêté sous les arbres qui l'environnaient. La nuit était obscure, le vent agitait le feuillage. On entendait les animaux féroces qui rugissaient dans l'éloignement. Ces bruits lugubres et les ténèbres ajoutaient à la tristesse et à l'agitation de Tolo. Il se promenait à grands pas autour de la cabane. Il s'en approchait par un instinct machinal, mais il s'en éloigna subitement dans la crainte d'entendre quelques mots qui lui auraient percé le cœur. Le crépuscule ne devait pas tarder à paraître. la cause des supplices de Tolo devait bientôt cesser. Il regardait du côté de l'Orient. La couleur opale qu'il découvrait sur cette partie du ciel lui annonçait le jour et le repos. Les transports de sa jalousie devenaient moins violents. Son inquiétude se calmait peu à peu. Son âme forte et vive, disposée à l'enthousiasme, retrouvait celui de l'amitié. Elle s'y livrait, elle sentait même la joie, et l'amour n'était plus pour elle un tourment. « Soleil !» s'écria-t-il, « sors de ton grand lac et de tes nuages. Père de la vie, fils aîné du grand esprit, chasse les ombres. Soleil, rend la joie au monde, que les ombres sont terribles. Qu'elles pèsent tristement sur la terre. C'est dans les ombres que le tigre surprend sa proie et que la jalousie déchire le cœur. » Il avait à peine prononcé ces derniers mots qu'il se vit dans les bras de son ami. « Ah !» dit Mounza, « il ne manque à mon bonheur qu'un sourire de Tolo. Cher ami, sois content. Érimé nous aime l'un et l'autre. » Ils rentrèrent ensemble dans la cabane. Érimé et Mounza montrèrent à Tolo plus de tendresse que jamais. Ils le prévenaient sur tout. Ils s'occupaient de lui. Enfin, la nature leur inspirait tout ce qu'il lui fallait faire et dire pour consoler l'amour-propre de partager ce qu'il veut posséder seul. Et Tolo reprit sa gaieté, et ils passèrent ensemble une journée délicieuse. Cependant, vers le soir, Mounza apparut un peu rêveur. Érimé en devina la cause. Alors elle eut pour lui une partie des attentions qu'au moment auparavant elle avait eue pour Tolo. Celui-ci devina le motif des attentions d'Érimé et les imita. Quelque avide qu'il fût des plaisirs qu'il attendait, amoureux, ardent, passionné, mais généreux, il ne fut pas insensible à la nuance de tristesse qu'il remarquait sur le visage de son ami. La nuit vint et Chérico demanda qu'Érimé et Tolo le laissassent seul avec Mounza. Ils lui obéirent et Tolo passa les premières heures de la nuit dans les transports les plus délicieux. Il jouit de tous les plaisirs que lui avaient promis les charmes d'Érimé et l'emportement de sa passion. Érimé parut répondre à son amour. On n'a point su lequel de ses deux époux lui était le plus cher et le plus agréable. On a dit qu'elle était plus tendre avec Mounza et plus passionnée avec Tolo. Dans cette première nuit, qui vaut toujours mieux que celle qui la suive, lorsque les transports de Tolo furent un peu calmés, « Érimé, dit-il, tu es l'âme de nos âmes, nous vivons en toi. S'il en est un de nous qui soit plus cher que l'autre à ton cœur, ne laisse pas échapper ce secret. Un mot de ta bouche ôterait la vie aux vieux amis. Règne sur Tolo, règne sur Mounza, et qu'ils conservent jusqu'au tombeau les sentiments qu'ils ont un pour l'autre et pour toi. J'ai associé mon cœur à vos cœurs, répondit Érimé. Soyez heureux, je serai heureuse. Mounza, resté seul avec Chérico, lui parut accablé de sa tristesse. « Jeune homme, lui dit le vieillard, tu as chanté dans les supplices et tu te laisses abattre par la jalousie. Quand tu bravais les tourments chez les Waterways, que faisais-tu? Ton âme s'est lancée au dehors, le fer et le feu ne saisissaient point ta pensée. et la douleur qui se promenait sur ton corps ne pénétrait point jusqu'à toi. « Il est vrai, » dit Moussa, « mais je portais alors ma pensée sur ton lot et sur Érimée. Je les vois dans ce moment, je les vois, et ce sont eux qui m'affligent. Ô bon vieillard, où porterai-je ma pensée? Où pourra-t-elle s'arrêter, loin d'Érimée et de l'eau? Mais porte-la, dit Chéricot, dans le passé et dans l'avenir. Rappelle-toi les délices de ton amitié qui a rempli ton cœur, les secours et la gloire qu'elle promet. Pense à la nuit heureuse que tu as passée avec Érimée et aux nuits semblables qui sont promises encore. Ô jeune homme, il nous est donné quelques moments qu'il faut saisir avec avidité et dont il faut jouir avec ivresse. Mais dans le plus grand nombre de nos moments, nous souffrons si nous ne savons pas jouir de l'avenir, du passé, du souvenir et de l'espérance. Je me tais, je t'abandonne à tes pensées. Et si tu sais diriger, tu retrouveras ton courage. Souviens-toi que la nuit marche à grands pas, le jour la suit. Moussa, qui trouvait tous les moments de cette nuit d'une énorme longueur, sortit dans l'espérance de voir bientôt l'aurore. Cette espérance et le discours du vieillard avaient un peu ranimé Moussa. Il n'était plus dans l'abattement. Une douleur qu'on veut combattre et qui est mêlée d'espérance agite l'esprit, dispose le corps au mouvement. Et Moussa se promenait sous les arbres qui étaient aux environs de la cabane. L'air était frais, le ciel était pur, la nuit tranquille, les étoiles étincelaient à travers les arbres, les pâles rayons de la lune perçaient le feuillage, il tombait sur la rose et du gazon qui semblait couvert d'une voile d'argent. Un ruisseau peu distant roulait et murmurait dans une prairie voisine. Moussa l'entendait. Il entendait aussi le chant voluptueux et tendre de quelques oiseaux qui annonçaient le crépuscule. Ce calme et cette fraîcheur de la nature, cette douce lumière, cette obscurité modérée, ces sons variés qui interrompaient faiblement le silence de la nuit, l'espérance de voir bien renaître l'aurore, ne firent point cesser la mélancolie de Moussa, mais lui prêtèrent des charmes. Son âme avait encore des regrets, de l'inquiétude, mais cette inquiétude, ces regrets, étaient accompagnés d'amour, d'amitié, d'espérance. Ces sentiments, les plus agréables de l'humanité, dominaient dans le cœur de Moussa. Il se livrait à sa sensibilité vive et profonde, et il l'exprima bientôt avec cette facilité et ce talent naturel que tous les sauvages ont pour la poésie. « J'aime, dit-il, j'aime, l'esprit d'amour est mon âme, qu'il me donne de vie et de délices. J'aime, mes larmes coulent, il m'échappe des soupirs profonds. Mes larmes ne sont chères, mes soupirs sont doux. J'aime. Que ce silence, cette douce obscurité, ces astres d'or, cette belle lune, ce chant des oiseaux ont de charme pour moi. J'aime. J'aime Érimée, j'aime Tholo. Et c'est parce qu'ils me sont chers que tout me plaît dans la nature. L'aurore va blanchir l'Orient, le jour va paraître, et il sera plus délicieux encore que cette belle nuit. J'aime. » Après cette douce ivresse, Moussa entra dans la chambre de Chéricot. Il y trouva le couple qu'il aimait. J'étais si rempli de ces sentiments qu'il fut quelque temps sans pouvoir les exprimer. Il reçut et rendit bientôt les caresses les plus tendres. Tous trois paraissaient contents, et ils l'étaient. Ce qui ajoutait encore à leur bonheur, Chérico guérissait de sa blessure. Le grand sens de ce sage vieillard contribua beaucoup à maintenir la paix dans ce ménage extraordinaire. La passion des deux amants, éveillée de temps en temps par une peu de jalousie, se conserva longtemps dans sa force. Érimée ne parut pas refroidir ni pour l'un ni pour l'autre de ses époux. Tous trois, après avoir passé leur première jeunesse dans les plaisirs et l'agitation de l'amour, jouirent de la paix et des douceurs de l'amitié. Érimée devint un nouvel ami que s'étaient donné Molo et Moussa. Toujours aussi intimement, ainsi qu'ils l'étaient dans leur enfance, ils continuèrent de distinguer par leur adresse à la chasse et par leur valeur à la guerre. Ils furent souvent les chefs de leur nation, et ils partageaient le commandement comme les dangers. Ils consolèrent Chérico de sa vieillesse, ils imitèrent ses vertus, et l'heureuse Érimée fut toujours vigilante, douce, attentive, laborieuse, le modèle de la fidélité conjugale.